Un sol majeur.
Un sol majeur.
Elle s'appelle Ouria, ce qui veut dire... Ah ben non, ça ne veut pas dire liberté mince.
Un peu quand même.
Un peu quand même. Franco-algérienne, porte-parole des indigènes de la République. Ouria Boutelhjane ne se sent pas toujours libre au niveau de ses droits de citoyenne française, mais elle milite pour le droit de l'exprimer recta, cash, sans embâge, notamment sur les plateaux de télé français, avec une liberté de ton qui peut parfois décoiffer. Exemple d'une interview volée sur YouTube.
Alors moi, ce qui me plaît dans la manière dont on envisage les choses, c'est qu'on fait, on met toujours la focale sur les quartiers populaires. Les quartiers populaires sont en déficit de connaissances, de conscience politique, il faut les éduquer, etc. Et on occulte complètement le reste de la société et ses privilèges. Les privilèges du reste de la société. Et moi, j'ai envie de dire, c'est le reste de la société qu'il faut éduquer. C'est le reste de la société à qui il faut dire, par exemple, ne serait-ce que sur la question de l'histoire, c'est le reste de la société occidentale, enfin, de ce qu'on appelle, nous, les souchiens, puisqu'il faut bien leur donner un nom, les Blancs, à qui il faut inculquer l'histoire de l'esclavage, de la colonisation. Je reviens toujours là-dessus parce que c'est très important. La question de l'identité nationale, elle doit être partagée par tout le monde. Et c'est là qu'il y a un déficit de connaissances.
Vous vous reconnaissez, Ouria Boutelja?
Oui, absolument.
Une grosse polémique à l'époque autour de ce terme souchien. On ne va pas rouvrir absolument la politique. Peut-être une précision, est-ce que cette terminologie... maintenant qu'on est calme, est-ce que, à votre sens, elle peut attiser un certain racisme anti-blanc?
Peut-être, mais c'est pas le but. C'est-à-dire que on crée des catégories en France. Ça, il faut bien que tout le monde en ait bien conscience. Et les premiers qui sont mis dans des catégories, c'est les gens issus d'immigration constamment. Je veux dire, depuis les premières générations de travailleurs immigrés, je veux dire, il faut se souvenir des mots, hein, les bicots, les ratons, les crouilles, etc.
Donc c'est œil pour œil.
Non, pas tout à fait, parce que ça c'est raciste. Justement, ce sont des termes racistes, alors qu'ils ont été. Alors ensuite, il y a eu la deuxième génération.
C'est quand même très limite. Hein,
non. Non. Là, il y a eu la deuxième génération d'immigrés, donc là c'était les beurs, qui ne sont pas du tout des termes revendiqués par les personnes. On nous appelle les beurs, les deuxièmes générations, les troisièmes générations, les quatrièmes générations. Aujourd'hui on fait partie de la diversité, on est constamment mis dans des catégories, bien alors musulmans modérés, etc. C'est-à-dire qu'on est toujours classé dans des catégories. En face, il y a les Français de souche. Ça, c'est pas nous qui inventons les termes. Les Français de souche, ce sont des catégories qui sont utilisées par l'ensemble du champ politique et l'ensemble du champ médiatique. Alors, nous, on se gosse de tout ça, on en rigole, évidemment. C'est-à-dire qu'on cherche aussi à mettre en évidence l'opposition entre Français de souche et le reste de la société, ceux qui font partie de la diversité. À partir du terme Français de souche, on invente non pas un jeu de mots, mais un néologisme formé sur le mot souche.
Mm-hmm. Vous voyez, vous voyez, quand même, on est sur un terrain glissant, là.
On dit des Autrichiens. c'est à partir du mot souche, on invente un mot qui fait souchien. Mm. C'est parfaitement français. Et comme on pourrait dire Autriche, Autrichien. Bon. Donc, c'est vraiment pour mettre en évidence le caractère structurel du racisme en France.
Grande oratrice, amoureuse des mots, donc des mots choisis en toute conscience. Portrait dans Sol majeur avec Ouria Boutelhjane. Tout à l'heure, on écoutait Médine et puis Moussel Hakim, donc du rap et de la musique algérienne. Alors là, vous nous avez ramené la grande chanteuse sud-africaine Myriam Makeba avec une chanson que je connais pas, moi, qui s'appelle La Luta Continua. Pourquoi?
Oui.
Où est-ce que vous l'avez découverte?
Quand j'étais à Lyon, je fréquentais beaucoup des milieux gabonais qui m'ont fait découvrir Myriam Makeba, qui est une énorme chanteuse anti-colonialiste sud-africaine, qui a toujours milité au travers de son art, au travers de la chanson, pour la libération de l'Afrique. Elle est morte récemment, c'est un hommage à cette grande chanteuse qui est Myriam Makeba, et qui est en même temps une très très grande artiste.
My people, open your eyes and answer the call of the drum. Pretty more, pretty boom. Come on, Amashe. Some more, Amashe. Let's come. Maputo, Maputo.
Aluta Continua, donc une chanson de Myriam Makeba, choisie par Ouria Boutelja, toujours en sol majeur. Ouria, née en 74, en 73, en Algérie. Alors, vous êtes arrivée en France à 6 mois, grandie dans une famille plutôt traditionnelle, on n'en a pas tellement parlé, au milieu de 3 sœurs et un frère. Étudiante, elle se tourne vers des études de langue étrangère appliquée arabe-anglais. Et tout de suite, la militante balle pavée, elle s'oppose à la loi contre le port du voile à l'école, cofonde le collectif Les Blédards en réaction à Pute ni soumise. Elle est aujourd'hui la très redoutée porte-parole des indigènes de la République. Je crois qu'on va repartir toujours pour cerner Ouria, qui se plie à l'exercice du portrait magnifiquement, à l'assaut de petites questions, pardon, aux accents venus d'ailleurs.
Professionnellement, y a-t-il des situations où vous avez ressenti de l'injustice ?
À vrai dire, dans mon parcours, j'ai tout fait pour éviter la confrontation avec le racisme. C'est-à-dire que j'ai vraiment, par exemple, j'ai fait des études de commerciales. En plus, j'ai fait une maîtrise anglais-arabe en LEA, et puis j'ai poursuivi des études commerciales en marketing et management dans une école de commerce. Et donc j'ai eu mon diplôme et j'ai refusé d'aller me présenter dans une entreprise. Je ne voulais pas être confrontée à des gens qui allaient systématiquement me poser toujours la même question sur mes origines et entendre
ce qui était déjà arrivé.
Oui, bien entendu. Oui. Et entendre, si vous voulez, la reproduction des discours dominants. C'est-à-dire, je me suis protégée, j'ai fait des études d'arabe pour rester dans un environnement où je n'allais pas être confrontée à cette situation. Et professionnellement également, donc là je suis attachée commerciale, j'ai évité également toute confrontation. Ça paraît bizarre. Mm-hmm. Je veux dire, on a pas le sens. Quand on est français de souche, on se rend pas compte.
Quand on est une souchienne, donc.
Voilà, quand on est un souchien ou une souchienne, on ne se rend pas compte. On se rend pas compte à quoi on est confronté tous les jours. C'est-à-dire la reproduction des discours dominants. C'est au café, c'est au restaurant, c'est dans les rencontres quotidiennes. Et nous être acculés systématiquement à nous justifier ou bien remettre de la rationalité. En fait, dans les discours qui sont reproduits, c'est fatigant. Mm-hmm. C'est fatigant, et moi, je ne peux pas supporter ça.
Vous qui êtes dans le milieu politique, hein, vous avez un avenir là-dedans, ça se sent bien. Est-ce que vous sentez qu'il y a dans l'air de la discrimination, même si vous êtes le porte-drapeau de ce combat anti-discrimination?
Bien sûr qu'il y a de la discrimination. Si je le sens, bien sûr, je le sens. Je le sens, tous les gens qui vivent aujourd'hui dans les quartiers populaires, dans les banlieues françaises, le ressentent encore plus que moi, parce que moi je suis un peu, socialement ça va, je gagne un peu plus que le SMIC si vous voulez, mais ça va, je m'en suis sortie.
Donc
mais
vous vous sentez toujours dans une position de discriminé en France, vous ne vous sentez jamais bien en France?
Je vais vous dire, je me sens pas, évidemment je me sens dans une situation de discriminé. Et je pense, c'est-à-dire qu'il faut être honnête, c'est-à-dire je ne vais pas vous dire que je serais mieux en Algérie. Ça serait vraiment mentir, puisque la situation est pire là-bas dans nos pays d'origine. Donc en réalité, objectivement, notre situation est meilleure en France. Ça, c'est un fait. Mais il n'en reste pas moins que par rapport au niveau général de la société, au niveau social général, nous sommes moins bien considérés, nous sommes discriminés, on parle de nous très négativement, on nous essentialise, on généralise les situations. Lorsqu'un musulman fait un truc, c'est l'ensemble de la communauté qui est stigmatisée. Lorsqu'un noir fait quelque chose, lorsque Dieudonné dit une connerie, c'est l'ensemble des noirs et des africains qui sont stigmatisés. Vous voyez ce que je veux dire ? Lorsque une famille polygame fait je sais pas quoi, c'est l'ensemble des traditions africaines qui sont stigmatisées. Ça, c'est très très difficile à vivre.
Quelle est la personnalité française que vous aimez le plus ?
Ouria Boutelja.
Elle est morte. c'est Jean Genet.
D'accord. Pour quelle raison ?
Pour son combat.
Donc l'écrivain.
L'écrivain. Pour un combat de toute une vie. Et il a su, avant tout le monde, développer cette sensibilité profondément anticolonialiste. Il a su avant tout le monde comprendre les Palestiniens. Il a su avant tout le monde comprendre les Africains. Il a su avant tout le monde comprendre la situation des immigrés en France. Et ce n'est pas pour rien qu'il était l'ami d'Angela Davis.
Si je vous demande de me réciter un poème, lequel vous vient à l'esprit?
En français ou en arabe, hein, je suis preneuse.
En français. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone.
C'est de Verlaine ?
Verlaine, je crois.
Hein on hésite entre Verlaine et
Verlaine, non ?
Oui,
je suis pas sûre.
Aussi. Mais cela dit, vous me disiez que la culture, c'était pas votre truc. Je suis une très mauvaise cliente. Comment ça se fait que la culture, ça vous branche pas plus que ça ?
La culture, non. Je sais pas.
Hein ? Faites pas un rejet de la culture française.
Ah non, non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Non. J'ai beaucoup lu les auteurs français. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai vraiment plus le temps. Mais là, je lis plutôt des essais, mais j'ai beaucoup lu. J'adore Maupassant.
Vous dites que le cinéma, la littérature, la chanson aujourd'hui, ça vous accroche pas du tout. Par contre, vous aimez les films anciens et même les comédiens style Louis Jouvet.
Ouais.
Alors, cadeau.
De quoi souffrez-vous ?
Oh, bah, attendez que je réfléchisse. Eh ben voilà. Quand j'ai dîné,
oui,
eh ben il y a des fois que je sens comme une espèce de démangeaison ici.
Oui,
ça me chatouille, ou bien plutôt ça me gratouille.
Et attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille?
Ah, ça me chatouille. Ben, ça me gratouille bien un peu aussi.
Ça vous chatouille quand vous écoutez Louis Jouvet?
Ah, j'adore. Il est...
Pourquoi?
Non, il est fabuleux.
Oui.
Ouais.
Est-ce que c'est pas la France de vos parents que vous aimez à travers cette culture-là, des films anciens?
Non,
des
pas du tout. Mes parents ignorent tout complètement cette culture-là. Non. Ça c'est ma France à moi. Non. Ça c'est ma France à moi.
La France d'aujourd'hui, vous avez du mal.
Non, mais c'est-à-dire que la France de cette époque-là, par rapport aux questions que moi je pose aujourd'hui, elle était peut-être sur les questions du racisme, du colonialisme, ça se trouve c'était pire. Non, je parle en termes culturels. Mm-hmm. En termes culturels, la production culturelle et même intellectuelle était beaucoup plus intéressante qu'aujourd'hui, enfin je trouve, de mon point de vue. Et les acteurs de l'époque, ils étaient extraordinaires.
Alors dans votre panthéon, on trouve aussi une certaine Billie Holiday.
Ouais.
C'est le personnage, c'est la chanteuse qui vous touche ?
C'est jamais les individus en tant que tels, hein. C'est évidemment les chanteurs ou les artistes dans leur parcours, dans leur militantisme, dans leur lutte.
Et là, c'est toujours ce que vous recherchez.
Oui, toujours. Oui. C'est vrai, il y a toujours cette dimension qui est très importante pour moi, c'est-à-dire ce qu'ils apportent à la société. Moi, le côté artiste, narcissique, qui ne s'intéresse qu'à l'esthétique ou ce genre de choses, ça ne m'intéresse absolument pas. Maintenant, au travers de ce qu'ils ont fait dans leur parcours, et là en l'occurrence pour les Noirs aux États-Unis, oui.
Un artiste doit s'engager.
Pas forcément, mais quand il s'engage, c'est mieux.
Alors vous savez, dans Lady Sing the Blues, Billie Holiday disait: vous pouvez vous habiller jusqu'au nichon, mettre des gardénias dans vos cheveux sans voir une canne à sucre à l'horizon et cependant vous sentir comme une esclave dans une plantation.
Ouais, ouais.
Southern trees
strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black body swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar tree. Gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck.
Oya Boutelja, donc sensible au blues de Billie Holiday sur RFI avec Strange Fruit en sol majeur, où il est toujours question de double culture.
Il y a un match entre la France et votre pays d'origine. Pour qui êtes-vous?
Je suis pour mon pays d'origine.
Sans hésitation.
Sans hésitation, mais ça demande une explication.
Oui.
Lorsque le Cameroun combat, je ne sais plus, je ne me souviens plus, il y avait un grand match il y a quelques années, le Cameroun contre je ne sais quel pays, l'Allemagne ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que les pays européens et occidentaux sont tellement au devant de la scène, sont tellement supérieurs à tous les niveaux, culturels, hégémoniques, techniques, etc., que c'est une énorme fierté pour ceux qui sont tout le temps dominés, et précisément à tous les niveaux,
attention au micro,
de, si vous voulez, de pouvoir, à un moment donné de leur histoire, ça dure quoi un match ? C'est rien du tout. C'est une heure, c'est deux heures, à un moment de pouvoir être fiers d'être ce qu'ils sont et de pouvoir, d'avoir pu combattre au travers de quelque chose qui est très symbolique, c'est rien du tout un match, d'avoir pris le revanche, ce qui est très rare.
Mmh.
Et évidemment, parce que nous sommes dominés, parce que les pays d'Afrique sont dominés, eh bien oui, je serai fondamentalement avec un pays du tiers-monde, et oui.
Sinon, les deux hymnes nationaux, français et algérien, vous font le même effet ?
Ah non, évidemment que non. L'hymne algérien, c'est un hymne de la libération du peuple algérien du colonialisme. C'est dans ce cadre-là que je l'aime. C'est celui qui a libéré mes parents du joug colonial et qui nous a libérés, nous, tous, collectivement, les Algériens et l'ensemble des... Même pour les Vietnamiens, l'hymne algérien, c'est quelque chose d'extraordinaire pour l'ensemble des Africains. Donc, non, ça ne fait pas le même effet. L'hymne français, c'est un hymne qui, de notre point de vue, nous a servi. Vous comprenez ? Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que ça pose des questions tout à fait fondamentales. Donc, des questions fondamentales de qu'est-ce qu'une communauté politique en France ? Comment, avec des contentieux politiques et historiques qui sont ceux-là, celui du colonialisme, de l'esclavage, etc., comment on fait société ensemble ? Et c'est vrai qu'il est temps de mettre les choses à plat pour un jour pouvoir faire société ensemble.
Ce qui est très parlant, peut-être, c'est que l'hymne français est bien sûr connu des Algériens, mais pas l'inverse.
Ah oui, évidemment.
Si vous deviez choisir un chapitre de l'histoire de France qui vous touche particulièrement, ce serait lequel ?
Oria Boutelja. Oula, vous cherchez très très loin, là.
Je connais peu l'histoire de France, donc je ne vais pas vous mentir. Et je vais être tout à fait franche, autour de moi, les gens en qui j'ai confiance, lorsqu'ils parlent de l'histoire de France et qu'ils mettent en avant un chapitre de cette histoire, ils parlent beaucoup de la Commune de Paris.
Mm-hmm.
La Commune de Paris, c'est pour beaucoup de gens autour de moi un moment très important et qui est une référence pour eux.
Mm-hmm.
Donc par imprégnation, je dirais, la commune de Paris.
Il n'y a pas un petit effort à faire là du côté, parce que déficit de mémoire sur l'histoire et de la France et de l'Algérie, c'est des choses qu'on paye ensuite.
Bien entendu, vous avez raison.
Il n'y a pas un petit effort à faire là du côté de l'histoire de France et de l'histoire de l'Algérie.
Ah oui, tout à fait.
Et vous connaissez un peu plus l'histoire de l'Algérie?
Ah non, pas du tout.
Pas du tout non plus.
Ah non. Je connais les grands traits. Ah non.
Pour vous, le pays d'origine est synonyme de quel mot? Nostalgie, passé, pays étranger?
Rien de tout ça. Pour moi, pays d'origine, c'est égal non pas passé, mais présent. Pour moi, c'est le présent.
Mais vous verriez...
Mais c'est pas là, je ne peux pas parler de nostalgie, parce que je n'y ai pas vécu, vous voyez. Donc,
mais vous projetteriez en Algérie?
Non, pas du tout, non.
Vous pourriez pas y vivre?
Non. Ce que je vous disais tout à l'heure, mon pays, c'est là. Je veux dire, je vis ici. En réalité, toutes mes références sont ici. Je ne vais pas m'inventer une identité que je n'ai pas.
Vous êtes regardé comment en Algérie? Parce que votre action, elle est connue.
Elle est connue en Algérie, c'est très apprécié.
Vous êtes regardé comme une francaoui ou pas du tout? Comment vous êtes regardé, vous le savez ça?
Je crois pas, non. Je crois qu'ils savent que j'ai une grande fibre algérienne. Je suis pas une étrangère pour eux.
Pour vous, rentrer à la maison, c'est où?
Pour moi, c'est rentrer à la maison, c'est aller chez ma mère, en Savoie.
C'est la Savoie.
Ouais, c'est la Savoie.
C'est la maman.
Ouais.
Donc le territoire, c'est le... C'est la famille.
Ouais, bien sûr.
Le sol majeur, c'est...
Ouais, bien sûr.
C'est la famille.
Ah oui, bien sûr. C'est la famille, oui.
Bon. Oui, on va peut-être se terminer avec une quatrième question sur le gaz. Que vous en pensez, Rouya Boutelja? On y va.
Quelle fête religieuse du calendrier respectez-vous?
De quel calendrier?
Ah ben, c'est vous qui choisissez.
Ah oui, d'accord.
Vous êtes libre.
Nous, on fait l'Eid al-Kbir et l'Eid al-Sghir, les deux grandes fêtes musulmanes, celle qui termine le mois du Ramadan.
Mm-hmm. Et celle du mouton, la petite et la grande.
La petite et donc celle du mouton, celle du sacrifice.
Vous faites la prière aussi?
Non.
Non, pas du tout?
Non.
Vous feriez le pèlerinage à la Mecque ou c'est au programme? Pas du tout, enfin...
Ma mère m'y invite. Comme je suis obéissante, oui, peut-être, sans doute.
Ah oui, vous feriez ça?
Pourquoi pas, ouais.
Vous n'avez pas un avis personnel sur la question?
Non. Non, mais pourquoi pas?
Vous dites non comme si c'était naturel, pourtant il n'y a rien de plus intime que cette question-là.
Oui, c'est une question intime, mais... Ouais.
Vous êtes la fille de maman, là. Vous suivez le credo de maman.
Oui, j'ai aucune raison de m'y opposer, en tout cas.
Vous allez faire jaser, là, vous savez. Les filles qui portent le voile, symbole de soumission à l'homme, etc. Attention, ça va commencer à réfléchir
grande,
dans les chaumières.
C'est une grande idée reçue. Hein,
vous avez 10 secondes pour dire, pour argumenter contre.
Ah non, obéir à ma mère, c'est libérateur.
Bon, à propos de libération, on va se quitter avec l'immense Férous. C'est tout un symbole aussi, vous l'avez choisi, c'est à votre programme, Rouya Boutelja.
Et oui, et puis avec l'actualité à Gaza, la Palestine, Jérusalem, une grande chanson de Férous qui demande évidemment à être connue.
Porte-parole des indigènes de la République, Rouya Boutelja, c'était notre invité. Merci.
Merci à vous.
Et bonne route.
Merci.
Caroline Fillette, Marc Delouvrier, Camille Lézère, Yasmine Chouaki, on se retrouve demain, toujours en sol majeur, même endroit, même heure.
Ya Quds, Ya Quds, Ya Medina al-Salah, Salli. Ayuduna ilayki tarhalu kulla yam, tarhalu kulla yam, tadur fi arwah. الحرب وحين هوت مدينة القدس